Chapitre 5. Marie-Rose. Au cœur de l'hiver 1866, pendant que tous les sentiers de la montagne étaient couverts de neige et que nous entendions chaque nuit les branches des hêtres chargées de givre se briser comme du verre à droite et à gauche de la maison forestière, un soir ma femme qui, depuis le commencement de la saison, allait et venait toute pâle, sans parler, me dit vers 6 heures, après avoir allumé le feu sur l'âtre, « Frédéric, je vais me coucher. Je ne me sens pas bien, j'ai froid. » Jamais elle ne m'avait rien dit de semblable. C'était une femme qui ne se plaignait jamais et qui, durant sa jeunesse, surveillait notre ménage jusqu'à la veille de ses couches. Moi, je ne me méfiais de rien et je lui répondis, « Catherine, ne te gêne pas, tu travailles trop. Va te reposer. Marie-Rose fera la cuisine. » Je pensais, une fois dans 20 ans, ce n'est pas trop. Elle peut bien se reposer un peu. Marie-Rose fit chauffer une cruche d'eau pour lui mettre sous les pieds et nous soupâmes tranquillement comme à l'ordinaire, avec des pommes de terre et du lait caillé. Aucune inquiétude ne nous venait sur les 9 heures. Après avoir fumé ma pipe près du fourneau, j'allais me coucher quand, arrivant près du lit, je vis ma femme blanche comme un linge, les yeux tout grands ouverts. Je lui dis « Hé, Catherine !» Mais elle ne bougea pas. Je répétais « Catherine !» en lui secouant le bras. Elle était déjà froide. Cette femme courageuse s'était couchée en quelque sorte à la dernière minute. Elle avait souffert longtemps sans se plaindre. J'étais veuf. Ma pauvre Marie-Rose n'avait plus de mère. Cela me causa un déchirement terrible. Je crus que jamais je ne me relèverais de ce coup. La vieille grand-mère, qui, depuis quelque temps, ne bougeait presque plus de son fauteuil et semblait toujours en rêve, se réveilla. Marie-Rose poussait des sanglots qu'on entendait jusque dehors, et Calas lui-même, ce pauvre idiot, bégayait. « Ah, si j'étais seulement mort à sa place !» Et comme nous étions au loin dans les bois, il fallut transporter ma pauvre femme pour l'enterrer à l'église de Dosenheim pendant les grandes neiges. Nous allions à la file, le cercueil devant nous sur la charrette. Marie-Rose pleurait tellement que j'étais forcée de la soutenir à chaque pas. Heureusement, la grand-mère n'était pas venue. Elle s'était assise dans son fauteuil et récitait les prières des morts à la maison. Nous ne revînmes ce soir-là qu'à la nuit noire. Et maintenant, la mère était là-bas sous la neige, avec les anciens bruats, qui sont tous au cimetière de Dosenheim, derrière l'église. Elle était là et je pensais, qu'est-ce que la maison va devenir? Jamais, Frédéric, tu ne te remarieras. Tu as eu une bonne femme. Qui sait si la seconde ne serait pas la plus mauvaise et la plus dépensière du pays? Jamais tu n'en prendras d'autres. Tu vivras comme cela, tout seul. Mais quoi faire? Qui est-ce qui prendra soin de tout? Qui est-ce qui veillera jour et nuit à tes intérêts? La grand-mère est trop vieille et ta fille n'est encore qu'une enfant. Je me désolais, songeant que tout allait se perdre, que nos économies depuis tant d'années se dépenseraient de jour en jour. Mais j'avais dans ma petite Marie-Rose un véritable trésor, une enfant pleine de courage et de bon sens. Sitôt ma femme morte, elle se mit à la tête de nos affaires, veillant aux champs, au bétail, au ménage, et commandant à Calas comme la mère. Le pauvre garçon lui obéissait, il comprenait dans sa simplicité que c'était maintenant la maîtresse et qu'elle avait le droit de parler pour tout le monde. Voilà comment vont les choses sur la terre. La vieille maison où je rentrais autrefois en riant de loin, rien que de voir ses petites fenêtres briller au soleil et sa petite cheminée fumer entre les cimes des sapins, était alors triste, désolée. L'hiver nous parut bien long. Le feu qui pétille si joyeusement sur l'âtre, quand les fleurs blanches du givre couvrent les vitres et que le silence règne dans la vallée, ce feu que je regardais souvent des demi-heures en fumant ma pipe, rêvant à mille choses qui me passaient par la tête, ne me donnait plus que de tristes pensées. Les bûches pleuraient. Le pauvre ragot cherchait dans tous les coins. Il montait, descendait, soufflait sous les portes. Calas tressait les paniers en silence, les osiers en tas devant lui. La grand-mère disait son chapelet, et Marie-Rose, toute pâle et vêtue de noir, allant et venant dans la maison, veillait à tout et faisait tout sans bruit comme sa pauvre mère. Moi, je ne disais rien. Quand la mort est entrée quelque part, toutes les plaintes que l'on peut faire sont en pure perte. Oui, cet hiver fut long. Puis le printemps revint comme les autres années. Les hêtres et les sapins se remirent à pousser leurs bourgeons. On ouvrit les fenêtres pour renouveler l'air. Le grand poirier devant la porte se couvrit de fleurs. Tous les oiseaux du ciel recommencèrent à chanter, à se poursuivre, à nicher, comme si rien ne s'était passé. Je repris aussi mon travail, accompagnant Monsieur le garde général Rameau dans ses tournées pour l'aménagement des coupes, surveillant l'exploitation au loin, partant de grand matin et revenant tard au dernier champ des hautes grives. Le chagrin me suivait partout, et pourtant j'avais encore la consolation de voir Marie-Rose grandir en force et en beauté d'une façon vraiment merveilleuse. Ce n'est pas Georges, parce que j'étais son père, que je dis cela, mais on aurait cherché longtemps de Saverne à Lutzelstein, dans nos vallées, avant de rencontrer une jeune fille aussi fraîche, la taille aussi bien prise, l'air aussi honnête, avec d'aussi beaux yeux bleus et d'aussi magnifiques cheveux blonds. Et comme elle s'entendait à tous les ouvrages, soit de la maison, soit du dehors. Ah oui, je puis bien le dire, c'était une belle créature, douce et forte. Souvent, en rentrant à la nuit et la voyant au haut de l'escalier me faire signe qu'on m'attendait depuis longtemps pour le souper, puis descendre les marches et me tendre ses bonnes joues, souvent j'ai pensé, elle est encore plus belle que sa mère au même âge, elle a le même bon sens. Dans ton malheur, ne te plains pas, Frédéric, car beaucoup d'autres envieraient ton sort d'avoir une enfant pareille, qui te donne tant de satisfaction. Une seule chose me faisait venir des larmes, c'est quand je songeais à ma femme. Alors je m'écriais, « Ah, si Catherine pouvait revenir pour la voir, elle serait bien heureuse !» Mais c'était impossible. La mort ne rend jamais ce qu'elle a pris. »